d'Off, jour de famine et de détresse. Vision. Il neige, j'ai la grippe. Sur la place, les gamins font des glissades. Je m'accoude à la fenêtre et contemple cette vie sur la neige. Sont-ils souples et lestes, ces enfants? Grands et petits s'en donnent, ils glissent, ils se poussent, ils tombent en grappe. Ah, en voici un en loque, sale, la tête embroussaillée, les sabots trop grands, les bas troués, les genoux perçant le pantalon, le fond de culotte en lambeaux. Pâle, boursouflé, mais agile et rablé. Déjà, de loin, il prend son élan et fait une glissade d'une douzaine de mètres. Dans cet élan, qu'il ne parvient plus à maîtriser, il en entraîne d'autres, il en renverse sur son chemin. Aucun n'a mal. Tous, cependant, se fâchent, se redressent et tombent sur le petit. C'est qu'il est plus adroit qu'eux, et sale, et pouilleux. Il le traîne hors de la piste, le roule dans la neige, le cogne et le jette la bouche contre le trottoir. L'enfant se relève, essaie de se défendre, le bras en bouclier, mais il est seul. De rage et de douleur, il s'en va, boitant et pleurant pitoyablement. C'est ainsi que mon frère, Kess, nous revenait toujours quand nous étions petits. Ce sensuel petit Kess, il avait d'admirables larmes, grandes et limpides comme des perles de rosée. En me retirant de la fenêtre, j'aperçus ma figure dans l'espion. Ma bouche était contractée, mes yeux en pleurs. Je venais de revivre une des scènes douloureuses de notre misérable enfance, ces scènes dont nous sortions honnis et maltraités. Étaient toutes provoquées par notre pauvreté, car, quand c'est pour le plaisir, ce sont toujours les déguenillés que l'on rosse. Mes parents. Avant l'altération continue, sûre et comme méthodique, que la misère fait subir aux natures les mieux trempées, mes parents étaient, dans leur milieu et pour leur éducation, deux êtres plutôt rares, tous deux d'une beauté exceptionnelle, quoique diamétralement opposés. Mon père, Dirk Oldema, était un frison, haut de 6 pieds, mince et élancé comme un bouleau, et d'une flexibilité incroyable. Il avait le teint très frais, les yeux bleu clair, lumineux, une denture merveilleuse, des cheveux châtain clair bouclés, une voix parlée franche et timbrée, et une voix chantante de ténor léger qui faisait s'arrêter les passants. Son plus grand plaisir était, le soir, assis avec tous ses enfants autour de l'âtre, de chanter en chœur ou de raconter des anecdotes de sa vie de soldat alors qu'il était trompette, avait un beau cheval et que, pendant que les autres étaient en ribote, il raccommodait les bas de tout le régiment pour pouvoir louer des livres. C'était la seule époque de bonheur qu'il avait eue dans la vie. Ma mère, d'origine liégeoise, était petite et brune, d'une joliesse piquante, extrêmement fine et bien prise, lisant des romans d'aventure, mais n'en ayant jamais eu dans la vie. Elle préférait le luxe au confort, et à cause de son éducation sommaire, cela se manifestait par un bonnet à fleurs rouges et blanches sur une chevelure mal entretenue, ou des souliers vernis sur des bas troués. Sa joie était de sortir avec Mina, ma sœur aînée, pour aller voir les magasins, de choisir aux étalages des toilettes magnifiques pour nous tous, de se griser là-devant, et de discuter le goût et le choix, comme si c'était arrivé. Toutes deux rentraient la tête en feu, et continuait la discussion devant une tasse de café sucré. Une des grandes attractions de ces belles choses eût été de faire enrager les voisines et les tantes. À défaut de ces élégances, quand ma mère avait un bonnet neuf ou une robe achetée au « décrochez-moi ça », Elle habillait le plus petit enfant le mieux qu'elle pouvait, partait se promener de long en large dans la rue où habitait une des voisines ou des tantes qu'il s'agissait de faire fondre d'envie. Et elle balançait la croupe et jouait avec l'enfant en affectant de ne voir personne. Mais du coin de l'œil, elle observait tout et venait nous raconter comment la tante avait écarté légèrement le petit rideau en se cachant, puis avait envoyé la petite cousine Katch pour bien détailler la toilette de ma mère, et que, bien sûr, la tante avait verni de dépit de les voir, elle et son enfant, si bien attifés. Ma mère était cependant fort bonne, et malgré sa grande misère, je l'ai vue prêter à ses mêmes voisines sa robe du dimanche pour la mettre au clou. Quand on lui témoignait un peu de sympathie, elle se donnait tout à vous, trop même, et passait ses journées chez les autres en lâchant le ménage et les mioches. Elle était plus rusée qu'intelligente et aurait en somme dû être une poupée de luxe. Elle en avait toutes les aptitudes. Elle chantait toujours, en nous berçant dans ses bras, des louanges à la Vierge. « Marie, reine des cieux ». Puis il y était question de « robe de soie bleue ». Je ne l'ai entendue chanter que lorsque j'étais petite. Plus tard, la misère le lui avait désappris. Je me souviens d'une voix très timbrée, avec beaucoup de charme. Même quand ma mère était vieille, sa voix parlée avait gardé tant d'inflexion et son rire était resté si jeune qu'on devenait confiant et gai en sa compagnie. Mon père se maria en quittant l'armée et devint gendarme. Ce qui le décida à accepter cette fonction était surtout le cheval qu'il adorait. Ma mère, orpheline dès l'âge de 13 ans et obligée de gagner sa vie comme dentelière, ne savait rien, mais rien du ménage. Depuis l'aube jusque tard dans la nuit, elle avait dû faire aller les fuseaux, ne se levant de sa chaise basse que pour se mettre à table, et tout de suite après le repas, reprenant ce travail âpre, qui lui donna des clignotements d'yeux sur lesquels je me guidais pour observer ce qui se passait en elle. Aussi, le premier repas qu'elle fit pour mon père fut des pommes de terre avec, comme sauce, de l'huile de lin au lieu d'huile alimentaire. Puis quoi? Elle n'avait jamais eu de liberté. Maintenant elle était mariée et pouvait bien aller bavarder un peu chez les autres femmes de gendarmes. Et quand mon père revenait de ses tournées, il ne trouvait rien de prêt et devait souvent se remettre en selle sans avoir dîné. Alors, au hall, il acceptait les petits verres qu'on offre volontiers aux gendarmes pour être bien avec eux, et il rentrait, se tenant trop raide sur son cheval. Il fut déplacé plusieurs fois, puis révoqué. Il devint ensuite garde-chasse, mais il renonça à cette fonction de son plein gré. Il lui était impossible de mettre les menottes à un homme qui, ne mangeant jamais de viande, avait tiré un lapin sur son propre champ. Quand mon père entendait un coup de fusil qui lui semblait suspect, il faisait un détour, et à la nuit, il allait prévenir le paysan qu'il serait obligé de confisquer le lendemain le fusil caché sous les navets et de dresser procès-verbal. Après, toujours par amour du cheval, il entra comme cocher dans les grandes maisons. Mais couper sa moustache l'horripilait. Et il n'y resta pas. Il s'engagea chez des loueurs et, de chute en chute, devint cocher de fiacre. La première fois qu'il monta sur le siège d'un fiacre, il fut honteux comme d'une déchéance. Mais plus tard, il en jugeait autrement et disait que les cochers de fiacre étaient des ouvriers, tandis que les cochers de maître étaient des domestiques. Ma mère pouvait rester des jours sans manger et n'en était guère incommodé, tandis que mon père souffrait énormément de ses privations. Et quand alors il entrait un peu d'argent, il y avait des conflits. L'un voulait tout dépenser à de la nourriture. L'autre prétendait en distraire une partie pour des vêtements ou autre chose indispensable. Aussi ma mère avait-elle toujours un bas et faisait-elle des cachotteries continuelles qui mettaient mon père en fureur. Ces deux êtres, de race et de nature si différentes, s'étaient épousés pour leur beauté et par amour. Leurs épousailles furent un échange de deux virginités. Ils eurent 9 enfants. Pour le surplus, peu de leurs goûts et de leurs tendances s'accordaient. Et, avec la misère comme base, il en résulta un gâchis inextricable. Nulle part, autant que chez nous, je n'ai entendu parler de beauté. Quand nous nous rêvions riches, nous nous entretenions surtout de ce que nous aurions appris, de toutes les belles choses dont nous nous serions entourés. Et pour des affamés comme nous, la nourriture ne venait qu'en dernier lieu. J'ai souvenance d'un dimanche après-midi où mon père voulait faire la lecture à ma mère, qui avait un nouvel enfant au sein. Il en était empêché par les voisins de l'étage au-dessus, qui recevaient des amis et s'amusaient à chanter en tapant des pieds en cadence et en frappant avec des couteaux sur des verres. Il avait déjà, à plusieurs reprises, fermé son livre en jurant quand on frappa à la porte. C'était la voisine qui venait inviter mes parents à partager leur divertissement. Je me disais, les voisins n'ont jamais rien, ils lisent par ennui, alors si vous vouliez prendre part à notre plaisir. Mon père remercia, mais d'un ton légèrement hautain, où perçait son mépris et sa mauvaise humeur de ce qu'on l'avait cru capable de s'amuser à de semblables vulgarités. La femme se retira confuse. Mon père était pris à la campagne d'une joie tellement émue que les larmes lui montaient aux yeux. Jusqu'au coassement des grenouilles dans les mares l'intéressait, et quand nous voulions leur jeter des pierres, il nous disait « Vous allez interrompre leur causerie, et elles s'expriment si bien dans leur langage. Elles font ménage comme nous, ont des enfants, mais ne doivent pas avoir autant de misère, car elles ne seraient pas si gaies. » Après ma 9e ou 10e année, je ne me rappelle plus grand-chose de sympathique chez nous. La misère s'était implantée à demeure. Elle allait s'aggravant à chaque nouvel enfant. Et l'usure et le découragement de mes parents rendaient de plus en plus fréquents les jours de famine et de détresse. Quand je me réveillais, c'était le soir. J'avais eu la rougeole et m'étais, une après-midi, échappé de la maison pour regarder les garçons jouer à jeter des billes dans des tuyaux de pipes fichés en terre. Je m'étonnais de voir leurs ombres s'agrandir ou se rapetisser suivant leurs mouvements, et je me demandais d'où provenaient ces ombres et pourquoi elles s'agrandissaient et se rapetissaient ainsi, quand je me sentis tout à coup empoigné par derrière, secoué dans tous les sens, et une voix criait « Méchante fille, tu pourrais mourir d'être sortie !» C'était notre servante qui m'arrangeait de cette façon. Nous avions, quelle dérision, une servante. Ma mère, n'ayant à cette époque que 5 enfants, pouvait encore s'occuper de son métier de dentelière, et comme l'ouvrage abondait momentanément, elle avait dû engager une petite bonne pour l'aider dans le ménage. Celle-ci me battit convenablement, comme c'est l'usage dans le peuple quand un enfant se fait mal. Puis elle me coucha dans ma petite crèche en bois, posée par terre contre le mur. Je m'endormis, et quand je me réveillai, c'était le soir. Ah, l'exquise sensation de bien-être et d'intimité! La chambre était bien éclairée, un bon feu brûlait dans l'âtre, ma mère faisait des dentelles au métier, et mon père lisait à haute voix les 1001 nuits. Parfois il s'arrêtait pour échanger des réflexions avec ma mère. Cato, si nous n'avions qu'à dire « Sésame, ouvre-toi !» Je ne te laisserai pas t'abîmer ainsi les yeux le soir à cette dentelle. Soyons contents que j'ai trouvé ces commandes dans cette petite ville. Puis j'aime mon métier. Cette guirlande est tellement jolie. Des feuillages avec lesquels les enfants jouaient m'en ont donné l'idée. Mon dessin est très bienvenu, et maintenant cela m'amuse. » Et ses doigts mêlaient les fuseaux avec une telle agilité qu'on ne pouvait les suivre. Dans la chambre était répandue la délicieuse odeur du foie de bœuf au vinaigre, qui mijotait dans un coin de l'âtre, qu'on mangerait tantôt, et dont j'aurais ma part. Mon père allait de temps à autre soulever le couvercle pour goûter, et, en léchant bien la cuillère, il disait « Cato, ce sera bon !» J'écoutais lire mon père, je humais la bonne odeur, et je me rendormis. Qui dort dîne. Premier exode. Mon père, très bon travailleur, avait l'art de se faire prendre en grippe. Il montrait trop que la bêtise et la vulgarité lui répugnaient. Il dut donc quitter la petite ville pour chercher de l'ouvrage ailleurs et se rendit à Amsterdam, d'où il écrivit bientôt à ma mère de venir le rejoindre. « Vends nos vieilles loques, ajoutait-il, pour faire le voyage. Tu trouveras ici ce qu'il faut. » Ma mère savait ce que cela voulait dire. Il y avait de tout dans les magasins, mais nous aurions pu coucher entre quatre murs. Mon père s'imaginait toujours que tout allait nous tomber du ciel, et déraisonnait alors complètement. Elle ne tint donc aucun compte de cet enfantillage et obtint du bureau de bienfaisance notre transfert à Amsterdam. On avait trouvé place, pour nous et notre pauvre mobilier, sur une barque de transport de marchandises. Ce fut un soir que deux employés du bureau de bienfaisance vinrent nous chercher pour nous embarquer. Ma mère avait ma sœur, Natch, au sein. Les employés, très gentils, tenaient les quatre autres enfants par la main. C'était à marée basse. Il fallait descendre une grande échelle. Je me rappelle très bien l'épouvante que nous éprouvâmes devant cet abîme noir. Un de mes frères criait qu'il ne voulait pas aller sous l'eau chez père. Moi, comme d'habitude, je tremblais et essayais de faire la brave. On nous descendit un à un et l'on nous fit entrer dans la cabine commune. Il n'y avait d'alcôve que pour le personnel et rien pour nous asseoir. Les bateliers étaient visiblement ennuyés de cette marmaille qui pleurait, faisait pipi et le reste. La barque se mit en route. Nous étions affalés sur le plancher. Ma mère s'y assit à son tour, étala autour d'elle ses jupes, sur lesquelles nous nous couchâmes tous, la tête dans son giron. Nadj tétait toujours. Je ne pus dormir. Je n'avais que 5 ans, mais je me souviens très bien qu'un homme entra, nous regarda avec antipathie, se déshabilla sans gêne et se coucha. Il jurait chaque fois qu'un des petits toussait ou pleurait. Vers le matin, ma mère se mit à torcher, laver et habiller les enfants pour l'arrivée à Amsterdam. Le bureau de bienfaisance n'avait payé que notre transport, comme pour les tonneaux d'huile et autres denrées. Il nous avait fait coucher à terre, telle une chienne et sa portée. Et ma jolie mère, avec son nourrisson au sein, n'avait pas reçu une tasse de café. Rien, rien. C'est ainsi que, grelottants et pâles de froid et de faim, nous arrivâmes par l'Amstel à Amsterdam, où mon père nous attendait sur les écluses. Pendant que la barque se trouvait arrêtée par la manœuvre, on nous hissa sur les passerelles. Il n'y avait de garde-fous que d'un côté, et sur ses planchettes, mon père, toujours casse-cou, nous fit passer d'écluse en écluse jusque sur le quai. Puis, par les rues, les ponts et les canaux, il nous conduisit dans une impasse où il avait loué une chambre, au premier étage d'une masure. Nous eûmes du café et des tartines, et on nous coucha sur de la paille, dans un placard noir et fermé. Reliefs et oripeaux. J'ai souvent lu et entendu dire que le parfum d'une fleur, le goût d'un fruit, évoquait chez certaines personnes un épisode exquis ou poétique de leur enfance ou de leur jeunesse. Eh bien, à d'infimes exceptions près, mes souvenirs à moi ne sont jamais ni exquis ni poétiques. Toutes mes sensations les plus fraîches et les plus pures furent gâchées par la misère, l'ignorance et la honte. Ce n'est du reste pas en sentant une fleur ni en goûtant un fruit, mais en mangeant du fromage de Hollande que je me suis souvenu d'une page de ma toute jeune enfance. Déjà notre misère devenait intense à cause du nombre d'enfants qui augmentait chaque année. Une de mes tantes était servante dans une grande maison de prostitution. Elle était très bonne pour nous. Elle nous faisait venir le soir, aux alentours de cet établissement, quand celui-ci battait son plein et que la surveillance était relâchée, et nous donnait les reliefs de table de ces dames. Entre autres, des croûtes de fromage, dont le goût, ravivé en moi l'autre jour, me fit revoir tout cela, comme cinématographié. Ma tante nous apportait également, cachés sous ses vêtements, des nœuds, des rubans de soie et de velours dont ma mère garnissait nos chapeaux, des corsages décolletés en soie écossaise qu'elle échangeait pour nous et dont elle nous attifait, à la grande stupéfaction des voisins. Je me rappelle une adorable petite robe que ma mère me fit avec des bandes d'étoffe à menus carreaux noirs et jaunes qu'elle avait cousues ensemble en dissimulant chaque couture sous un petit pli. Et de tous ces reliefs et oripeaux se dégageait un parfum suave que nous savourions avec délices. Têtes et peaux d'anguilles. Le samedi soir, quand mon père recevait sa paix, ma mère et ma sœur aînée allaient le chercher. Et alors, on achetait de bonnes choses à manger avec les tartines. Moi, je devais garder la maison et les petits qu'on avait couchés. Nous habitions une cave au Harlem Merdick. Ma mère et ma sœur parties, je m'asseyais sur le petit perron en contrebas de la rue pour regarder les passants. Je les voyais d'en bas. J'avais la tête et les bras couchés sur la planche de l'égout qui bordait les maisons des villes hollandaises. De temps en temps, je descendais mettre la sucotte dans la bouche d'un des petits qui criait, puis je reprenais ma place. Les passants se faisaient rares. Je me cachais dans notre cave chaque fois que le veilleur de nuit passait, en criant l'heure et en agitant sa crécelle qui me terrifiait. Quand il avait disparu, je remontais m'asseoir. Le sommeil m'envahissait. Mais l'appel de la marchandise d'anguilles fumées, que j'entendais dans le lointain, me réveillait et me donnait l'espoir que mes parents allaient rentrer et apporter des anguilles fumées, ou des harengs sorts, ou peut-être bien des saucisses bouillies. Cependant, vaincu par la fatigue, je m'endormais sur le perron, et le veilleur de nuit me descendait dans la cave, où il me couchait sur le grabat à côté des autres enfants. Mes parents avaient pour devise « Qui dort, dîne ». Le matin, mes petits frères et sœurs et moi, nous trouvions les têtes et les peaux des anguilles fumées ou des harengs sorts, restes des agapes de la veille, que nous mangeions alors avec nos tartines. Deuxième exode. Nous nous étions établis à Hollande op Zin Smalt, pendant qu'on y construisait le canal d'Imuiden. Mon père avait du travail dans les écuries, mais il ne faisait long feu nulle part. Nous dûmes encore une fois quitter. Il partit à pied pour Amsterdam, où il trouva tout de suite de l'occupation sur sa bonne mine. Il vint donc un dimanche nous chercher. On avait loué, pour 6 florins, une charrette de paysans qui devait nous conduire la nuit à Amsterdam. Quoique nous eussions retenu toute la charrette, le paysan l'avait en grande partie remplie d'objets à lui, des tonneaux, des paniers, et aussi un énorme moulin à café de magasin qu'il voulait faire aiguiser en ville. Nous voilà lamentablement entassés, partis dans l'obscurité, par les routes serpentines, pavées en briques jaunes, de la Hollande. Au-delà de Harlem, nous longeâmes pendant des heures une digue. On ne voyait pas ses doigts devant les yeux, et on n'entendait que le mugissement des vagues, montant contre les berges, et les cris stridents des oiseaux de nuit. La charrette s'arrêtait à chaque instant. Mon père descendait pour voir si nous étions encore au milieu de la digue et parler au cheval qui avait peur. Le danger était grand sur cette étroite bande, éclairée par une lanterne falote attachée à la charrette. Les enfants criaient. Ma mère, comme à chaque danger, récitait l'évangile de saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Mon père jurait, le paysan restait silencieux. Un choc de la charrette fit tomber le grand moulin à café sur ma figure. Je me mis à hurler, mais ma mère, qui ne pouvait voir ce qui m'était arrivé, se fâcha et me donna des taloches pour me faire taire. Toute ma figure s'enfla prodigieusement jusqu'à me fermer les yeux. Quand le jour se leva, je recommençai doucement à gémir et dis « Mère, regarde-moi, je ne vois presque plus ». Ma mère, effrayée, se plaignit que, malgré que nous eussions payé pour toute la charrette, le paysan l'avait encombrée au point de tuer presque ses enfants. Nous arrivâmes de grand matin à Amsterdam sur le Harlem Merdick, où mon père avait loué une cave. Il prit les enfants, un à un, sous les bras, et les fit sauter à terre. Moi, à cause de ma figure tuméfiée, il me porta jusque dans la cave en me consolant. « Ma pauvre petite poesque, ne te plains plus, nous avons manqué tous être noyés. » Non, non. Les jours où la misère ne nous talonnait pas trop, j'avais des joies et des sensations exquises, par le seul effet de mon imagination. Je prenais, ces jours-là, ma poupée, mes osselets, mon sac rempli de morceaux de porcelaine et de faïence, adorné d'une fleurette ou d'une arabesque, et j'allais sur les grands canaux à la recherche d'une belle maison. Les grands canaux d'Amsterdam m'inspiraient beaucoup de respect. Je ne pouvais me rêver Cendrillon que dans une de ces maisons du XVIIe ou du XVIIIe siècle, à haut escalier double de granit bleu, clôturé de grise et de chaînes de fer forgé, à la majestueuse porte sculptée, vert foncé comme l'eau bourbeuse des canaux, et dont une ferrure, martelée et ciselée ainsi que de l'orfèvrerie, grillageait la large imposte. Les vieux arbres qui se reflétaient dans l'eau et les barques qui glissaient comme sur de l'huile me donnaient une sensation de paix que plus jamais dans aucun pays je n'ai retrouvée. Je choisissais une marche du perron et vidais mon sac. Je disposais mes morceaux de faïence tout autour de la marche, comme des plats sur un dressoir, et asseyais ma poupée au milieu. Tout en jouant, mon esprit se délectait dans des rêves qui se passaient à l'intérieur de la maison. J'y habitais en compagnie des personnages des contes de Perrault. J'avais des salles remplies de poupées de toute grandeur, habillées comme les princesses des images d'Épinal. Elles étaient coiffées de vraies chevelures, avaient des yeux qui s'ouvraient et se fermaient, et elles disaient « papa » et « maman ». Ou je naviguais sur les canaux dans une barque bleue dont la voilure était de toile orange. Quand je me rêvais la belle au bois dormant, le bois m'embarrassait fort parce que je n'en avais jamais vu. Aussi me faisais-je dormir dans ma barque bleu ciel. Elle serait venue à la dérive d'une île du Zuiderzee, par tous les méandres des canaux de la ville, et aurait ainsi vogué doucement jusque dans le canal des seigneurs. Là, un gentilhomme, avec des dentelles à ses habits, l'épée au côté, serait monté dans la barque, m'aurait éveillée et conduite dans la belle maison sur l'escalier de laquelle je jouais. J'aurais préféré cependant être réveillée par une jeune dame blonde à qui j'eusse tendu les bras en ouvrant les yeux. Quelquefois, la porte de la maison s'ouvrait, laissait passer une vieille dame à crinoline, au chapeau à bas volets, à la figure placide encadrée de bandeaux pommadés et de repentir gris. Ou bien c'était une jeune femme, habillée à la dernière mode, d'un paletot sac sur la jupe grise, collante du haut et s'évasant dans le bas, en une traîne qui balayait le pavé. Elle était coiffée d'un gros chignon à bouclettes et d'un tout petit chapeau rond piqué sur le devant. De grandes boucles d'oreilles en jais se balançaient au bout des lobes allongés. Elle avait en main une minuscule ombrelle de soie verte, bordée d'une frange, et dont le manche en ivoire était replié. Les dames me laissaient ordinairement sur le perron en disant un aimable « Tu joues, petite fille ?» Et le son de leur voix et leur manière de prononcer les mots me charmaient. D'autres fois, de dessous le perron, par la porte de service, sortait une servante à robe d'indienne claire, au tablier blanc et en pantoufles de tapisserie à fleurs. Le bonnet de tulle tuyauté était posé sur le sommet de la coiffure à houppe. Elle portait un petit panier plat en osier blanc pour les emplettes et passait rarement sans me faire déguerpir ou me dire « Méchante fille, tu fais l'école buissonnière !» Si je me rêvais compagne des belles dames qui habitaient ces somptueuses demeures, ces apostrophes me rejetaient dans la réalité. Et à défaut de mieux, j'aurais bien accepté d'être une de ces jolies soubrettes. Ma robe de Pâques n'était jamais aussi immaculée que leur robe de travail. Et puis ces beaux bras nus, énormes et rouges, m'attiraient. Ma mère, ma sœur aînée et nous tous avions des bras très minces, avec des poignets de rien du tout, qui déplaisaient fort aux femmes de l'impasse. Jusqu'aux nichons menus et haut placés de Mina faisaient l'objet de leur quolibé, et elle lui souhaitait de bonne foi une poitrine basse et allongée qui ballotterait dans le corsage. Une fois que j'étais installée sur un perron du canal des Seigneurs, une jeune dame sortit de la maison, accompagnée d'une fillette de mon âge, à peu près 10 ans. La petite fille s'arrêta pour regarder mes joujoux. Puis elle chercha dans sa poche, y prit une pièce de monnaie et voulut me la donner. Je fermai mes 2 mains et les mis derrière mon dos en regardant la petite demoiselle. Elle rougit jusque dans le cou et se sauva près de la dame. Elle lui entoura le corps de ses bras et, cachant sa figure dans les vêtements, pleura en lui parlant. La dame la conduisit vers moi et m'offrit des bonbons que j'acceptai. Puis elle s'adressa à la fillette en une langue étrangère. La petite répondit dans cette langue « Non, non », en trépignant et en cachant ses mains. La dame parlementait et, lui prenant une main, la mit dans la mienne. Nous nous regardâmes. Elle avait les yeux bleus et les cheveux blonds bouclés, comme moi. Je la comprenais mieux en ce moment que je n'avais jamais compris les gens de ma classe. Mais pourquoi, étant si semblable, était-elle si autre? Je l'aurais griffée, je l'aurais piétinée pour cette différence que je ne pouvais comprendre et qui me semblait hostile. Quand elles furent parties, je me demandais quelle était cette différence, d'où elle provenait. Et de bonne foi, dès ce jour, je fus persuadée que les riches étaient faits d'une matière plus précieuse que nous, les pauvres. J'en étais convaincue quand ils parlaient, quand ils riaient surtout, et qu'ils savaient exprimer ce que moi, je sentais seulement. Mais autre chose m'était encore restée. C'est « non, non », dit d'une voix énergique, mais délicieuse, par la petite demoiselle, m'avaient paru les mots les plus beaux, les plus aristocratiques que j'eusse jamais entendus. J'ignorais ce qu'il voulait dire, mais je me les étais incrustés dans la mémoire, et la première fois que je les prononçais fut quand Mina voulut m'envoyer faire une course au lieu de me laisser mettre des papillotes dans les cheveux de Natch. Je lui répliquai, en trépignant comme la petite fille et en imitant sa voix, par des « non, non » qui la firent s'arrêter de nettoyer et ma mère de revauder. « Mon Dieu ! Où cette créature enfantine a-t-elle cherché ces mots? C'est du français !»« Du français ? fit Mina. Où voulez-vous qu'elle l'ait pris? Ce sont des mots que cette niaise invente, comme elle en invente toujours. Si, si, c'est du français. Je me rappelle fort bien que ma mère, quand j'étais petite, parlait le français avec son frère de Liège, et que, non, non, revenait souvent dans la conversation. Où as-tu entendu ces mots? Je ne voulais rien dire. Mina soutenait mordicus que je les inventais. Je n'inventais jamais rien. Les termes inusités dont je me servais, je les avais lus ou entendus, et je les répétais à la grande exaspération de ma famille. Mais jamais je ne m'étais servi d'aucun comme de ceci. Devant une injustice, je criais « Non, non !» Quand on voulait me prendre mes joujoux, je trépignais « Non, non !» Enfin, « Non, non !» étaient devenus pour moi les mots suprêmes de la protestation. Et j'en avais si bien saisi la signification que je suis sûre de ne les avoir jamais dit à contresens. À l'école catholique. Comme les deux bras de mon père ne pouvaient suffire à nourrir 10 bouches, et que ma mère, à cause de ses 8 enfants, avait dû abandonner son métier de dentelière, la misère était continue chez nous. Aussi, de temps à autre, ma mère écrivait-elle à quelques dames charitables pour obtenir des secours. Parfois, on nous en donnait. Peu de gens savent être bons sans se mêler de vos affaires. Une de ces dames avait décidé que je ne pouvais continuer à fréquenter l'école communale et que je devais aller à une école catholique. Elle avait, en payant 5 florins pour l'admission, le droit de placer une enfant dans cette école. La première fois que je m'y rendis, je portais une petite robe en indienne lilas, un tablier blanc propre et un ruban bleu dans les cheveux. Une sœur novice me conduisit jusqu'à la classe que je devais suivre et dit à la sœur qui la dirigeait « C'est la fillette de madame... » en nommant la dame qui avait versé les 5 florins. Je fus saisi et regardai rapidement les petites filles pour voir si elles avaient entendu. Il y en avait une qui tout de suite me dévisagea avec dédain. Les autres me reçurent très bien. Celle qui se trouvait derrière moi me demanda mon nom. Je lui répondis « Kedge Oldema ». Elle se mit à me caresser les cheveux et le cou. Cela me parcourait des pieds à la tête exquisement. Et puis la nouveauté de la chose me charmait. Ici, on n'allait donc pas me traiter en paria. Je devais bientôt déchanter. La petite qui me caressait avait dû apercevoir mes croûtes et mes poux sous mes beaux cheveux blonds ondulés. Je l'entendis chuchoter avec sa voisine et dire « Pouah !» Celle qui avait surpris le nom de la dame l'avait répété aux autres, et à la sortie de l'école, on me traitait déjà avec mépris. Au bout de 15 jours, j'étais, comme partout, la bête noire de tous. Si je m'approchais, on se taisait. Si je disais quelque chose, on me tournait en ridicule, ou on s'éloignait. La fille d'un cireur de bottes, mais que sa mère tenait propre, avait inventé que mon père, à moi, était l'aveugle bien connu du béguinage qui vendait des allumettes, et on ne m'appelait plus que « des rouges clairs, monsieur », mot dont il se servait pour offrir ses allumettes aux passants. Ma révolte et mon humiliation ne connurent plus de bornes. Ça, mon père! Quand mon père était un admirable frison, haut de 6 pieds, beau comme une statue, aux yeux bleus limpides et aux cheveux bouclés. Ce vieillard caduc, ignoble, mon père. Quand mon père était jeune et souple, et sautait de la croupe à la tête par-dessus un cheval, j'en hurlais de rage. Je trépignais, je leur expliquais, mais ma frénésie augmentait encore leur joie. Elles finirent par me tirer les cheveux. Mes croûtes s'ouvrirent et le sang me dégoulina dans le cou. Mais que devins-je l'hiver? Comme, à cause du froid, on ne laissait pas retourner les enfants chez eux, ils apportaient leur déjeuner. Nous traversions justement une période de famine noire. Mon père n'avait pas de travail. Le premier jour, je prétextais que j'avais oublié mon déjeuner, et la sœur me laissa partir. Mais la seconde fois, voyant que je n'avais rien apporté, elle m'appela et je dus avouer notre misère. Cette pieuse fille, mais peu psychologue, s'adressa aux enfants en disant qu'une de leurs petites camarades n'avait rien à manger, que celle qui avait trop de tartines devait lui en donner. Je me trouvai à côté de la sœur, tremblante de honte et de mortification. Je préférais la faim, ça me connaissait. La faim est silencieuse, et si vous savez vous taire également, elle vous détruit en douceur. Mais ces petits anges à qui on faisait appel me terrifiaient. Je déclarai à la sœur que je n'avais besoin de rien, que ma mère était sortie quand j'avais dû partir pour l'école et que je mangerais le soir. Je lui avais confié tout bas notre détresse, mais ceci, je le disais haut pour être entendu des autres. La sœur ne le prit point ainsi. Elle me traita d'orgueilleuse et de menteuse, ajoutant « Il n'y a aucune honte à avouer sa pauvreté, et vos petites camarades vont montrer qu'elles sont meilleures que vous. » Il y en eut qui m'apportèrent une croûte rongée. D'autres me donnèrent des morceaux mordus. Je ne voulus de rien, décidé à ne plus venir à l'école plutôt que de subir pareilles humiliations. À la sortie, toutes m'attendaient et commencèrent à me houspiller. Je me défendis des pieds et des mains et en mordis cruellement une qui me griffait la figure. Mais elles m'acculèrent à un mur et ensemble me cognaient, me tiraient par mes boucles et me crachaient au visage. Quand un homme, à grands coups de pied dans le tas, vint me délivrer. À la maison, je suppliai ma mère de ne plus m'envoyer en classe, puisque partout on me maltraitait à cause de mes poux et de notre pauvreté. Elle répondit que je devrais forcément rester à la maison pour garder les enfants, qu'elle allait être obligée de courir les établissements de charité afin d'obtenir des secours, car père, n'ayant pas de travail, était parti en chercher dans une autre ville. Tous nos pauvres petits ont été traités de la sorte à l'école. Kess et Natch rentraient ordinairement la figure tuméfiée et en pleurs. Kess était si innocent qu'il disait à ceux qui voulaient maltraiter sa sœur « Prends garde si tu oses frapper mon petit frère !» Et il pleurait de grosses larmes en la protégeant. La soupe au pois. Ma mère avait reçu 4 cartes pour 4 portions de soupe au pois. Il fallait aller la chercher. Nous nettoyâmes le mieux possible notre unique petit seau en bois qui servait à tous usages. Et, avec un plat blanc comme couvercle, cela nous semblait convenable. Nous n'étions jamais allés chercher de soupe. Ma mère était fort gênée de ce seau qui indiquait clairement où nous nous rendions. Les gamins criaient après nous. « Snert et mère ! Snert et mère !» Note. Snert, soupe au pois. Et mère, seau. Aussi, pour éviter une grande artère très fréquentée, fit-elle un long détour par les ruelles à Bouge pour matelots. En arrivant à l'orphelinat luthérien où on distribuait la soupe, nous dûmes faire queue. Ma mère n'osait pas. Elle me passa le seau et alla m'attendre aux environs. Je revins, le seau rempli de bonne soupe bien chaude. Il y avait du verglas. J'avais de grands sabots de ma mère aux pieds. Je me tenais de ma main libre aux chaînes du perron de l'orphelinat. Le verglas me fit glisser sous les chaînes et je tombai sur le dos en répandant la moitié de la soupe. Je pleurais. Un homme vint à mon secours. Il me ramassa et bougonna que ce n'était pas une charge pour une petite fille. Il se disposait à porter mon seau quand je lui dis que ma mère était au milieu de la rue.
« Ta mère ? Eh bien alors !»
En effet, ma mère nous regardait sans approcher, mortifiée et rougissant de honte et de colère de ce que j'avais signalé sa présence. Quand l'homme me conduisit vers elle et lui manifesta son étonnement, elle ne trouva à répondre « Il n'y a rien à faire avec cette créature enfantine. »
J'avais 11 ans.
Elle saisit le seau, me jeta un regard furibond et, en dandinant son corps appesanti par la grossesse et faisant de ses sandales clots, clots dans la boue, elle prit le même détour par les ruelles à prostituer. Je la suivis à distance et nous rentrâmes chez nous, piteusement. Pour comble de misère, la soupe avait pris le goût du seau qui servait à tous usages. Catéchisme et première communion. Je suivais depuis 2 ans le catéchisme de première communion et étais chaque fois renvoyé à l'année suivante, parce que je ne savais jamais ma leçon. Le tapage continuel de 8 enfants dans notre unique chambre me rendait toute étude impossible. Je voulais en finir. Non pas que je croyais, la religion n'avait jamais eu aucune prise sur moi. Mais je m'apercevais que je commençais à passer pour une bête, et cela, je ne le voulais pas. Puis, pour une fois au moins dans ma vie, je serais habillée de neuf des pieds à la tête. Je m'étais donc juré de faire ma première communion cette année. Je choisis, pour étudier ma leçon, un perron sur un canal. J'en nettoyai une marche avec mon jupon et me mis à apprendre par cœur les questions et les réponses. Cela allait tout seul. Moi qui me croyais incapable d'apprendre, je retenais, en les répétant 2 ou 3 fois, des réponses de 6 ou 7 lignes. J'étais sauvé. La première fois que je me représentais au catéchisme, le vieux curé interrogea toutes les petites filles, excepté moi. Je finis par lever timidement le doigt en disant « Vous m'oubliez, monsieur le curé ?»«
Non, mais tu ne sais jamais. »«
Aujourd'hui, je sais, monsieur le curé. »«
Eh bien, viens ici. »
Je débitai ma leçon d'un trait. Quand j'eus fini, il me leva la tête sous le menton.
« Tu sais même très bien ta leçon, » fit-il. « Comment as-tu fait ?»«
Je ne pouvais jamais l'apprendre chez nous à cause du bruit et parce qu'on ne me laissait pas tranquille. Maintenant, je vais sur un perron. Là, je suis seule et à l'aise. »«
Sur un perron ? Tu apprends ta leçon sur un perron ? Et quand il pleut ?»«
Il n'a pas encore plu. »
Il hocha la tête.
Quand la pluie vint, et même la neige, je me réfugiais aux latrines qui se trouvaient sous beaucoup de ponts d'Amsterdam. Je devins bientôt une des premières du catéchisme, et quand le vieux curé voulait en avoir plus vite fini, il me choisissait souvent pour l'aider à interroger. Un jour, il me chargea de faire répéter 4 fillettes. Parmi elles était une métisse indienne du grand monde. Les jours de pluie, elle arrivait en équipage. Elle me regarda avec une telle aversion que j'en restais tout interloqué.
« Comment ? » parlait son regard. « Cette pouilleuse va m'interroger, moi ?»
Mais il fallait bien qu'elle obéît. Le curé l'avait ordonné. Elle me répondait à voix si basse que je la comprenais à peine. Cependant, pour me faire bien venir d'elle, je lui dis «
C'est parfait, jeune demoiselle. Je dirai à monsieur le curé que vous savez très bien votre leçon. »
Elle retroussa ses lèvres de négresse et fit « Pfff !» d'un air si dédaigneux que j'en bafouillai pour de bon. Cet hiver-là, nous fûmes expulsés de notre impasse et j'aurais dû suivre le catéchisme à l'église de notre nouvelle paroisse. Mais je voulais avoir l'image de saint qu'on recevait au 10e bon point. J'en avais déjà 7, et le vieux curé m'avait promis que mon image serait belle, parce qu'il voyait bien maintenant que j'étais une brave petite fille. Je continuais donc à me rendre à mon ancienne église. Or, voilà que le jour du 10e point, ce fut le vicaire qui fit le catéchisme, et pour comble de malchance, je tirai la langue à l'indienne. À un moment, le vicaire se retournait. Il se fâcha et dit que c'était manquer de respect à Dieu d'oser tirer la langue dans sa maison. Pour me punir, il me fit agenouiller devant le maître-autel, les bras levés au-dessus de la tête et un tabouret dans chaque main. Quand tous furent partis, je déposai un tabouret, car deux, c'était trop lourd. Et des deux mains, je soutins l'autre aussi haut que je pouvais. Mais, vaincu par le chagrin d'avoir perdu mon dixième point, je finis par déposer aussi celui-là. Et pleurant à chaudes larmes et sacrant comme mon père, je me couchai tout du long devant le maître-autel, sans m'inquiéter de Dieu. Ainsi me trouva une des servantes du curé, qui s'enquit pourquoi je pleurais. Je le lui racontai, en ajoutant que mes dix points étaient irrémédiablement perdus, puisque pour faire ma première communion, je devais aller à ma nouvelle paroisse. Elle partit sans m'encourager. Mais quelques instants après, le vicaire vint, cachant derrière sa soutane un rouleau de papier blanc. Il me demanda si je regrettais d'avoir manqué de respect à Dieu, et comme je répondais « oui », il me donna l'image, un Saint-Pierre avec les clés du ciel. J'aurais préféré une ascension de la Vierge pour les guirlandes de fleurs qui l'entouraient. Mais enfin, ceci était un prix que j'avais gagné. À l'école, je n'en avais jamais eu, parce que j'étais très sale, toujours déchirée et peu assidue. Nous devions continuellement déménager sous menace d'expulsion, à cause du loyer qu'on ne pouvait payer. Et ma mère, négligente, attendait parfois 6 mois avant de faire la transcription d'une école à l'autre. Aussi étais-je toujours la dernière, comme du reste tous mes frères et sœurs. J'étais cependant capable d'apprendre ce qu'on aurait voulu, et j'avais des dons. Ma voix était si jolie qu'un des instituteurs ne manquait jamais de se mettre de mon côté, la tête penchée vers moi quand on chantait en chœur. À la gymnastique, on faisait grimper aux échelles filles et garçons. Mais moi, qui étais souple comme un chat, je devais descendre dès le 3e échelon. L'instituteur de garde, voyant mes dessous en guenille, n'osait pas me laisser monter. Que n'aurais-je donné cependant pour grimper là-haut? Et ainsi pour tout. La première communion approchait. Le curé de notre nouvelle paroisse venait d'être nommé. Il était plein de zèle et de délicate bonté et s'occupait beaucoup de donner un grand éclat à cette cérémonie. Au lieu d'y distribuer aux pauvres des uniformes qui les désignaient, il s'arrangea avec les dames patronesses pour remettre aux mères l'argent des toilettes. Depuis longtemps, ma mère et moi nous parlions de cette robe qui allait me stigmatiser. Mais elle reçut 10 florins, et nous pûmes acheter tout à notre goût. J'eus un chapeau blanc entouré de gaze, une robe grise à ruches effilées, raide comme une planche, qui m'encaissait au lieu de m'habiller. De hautes bottines à lacets de soie blanche avec 2 petites floches sur le pied et des gants de coton blanc. Une dame me donna du linge de sa fille, si bien lavé et repassé que c'était plus beau que du neuf. Mes cheveux bouclaient naturellement, mais l'avant-veille de la première communion, on me mit 3 étages de papillotes, et le matin même, on tourna chaque boucle sur un bâton, en la mouillant de café sucré pour la tenir raide. Cela me faisait une chevelure toute brune, à moi qui étais blond et pie. Je m'habillai de grand matin, et frissonnante d'être aussi belle, je me rendis à la cure avec ma mère. Je la précédai de 2 pas, tenant de la main gauche un petit mouchoir de mousseline déplié devant moi, et de la main droite mon livre de prière. Toutes les fillettes étaient un peu pâles d'être à jeun. Moi, cela ne me faisait rien. J'étais entraînée. Nous nous montrâmes toutes, riches et pauvres, nos robes, nos souliers, jusqu'aux jupons. Pour ma part,
tout mon orgueil allait aux petites floches de mes bottines, et je relevais continuellement ma robe sur le devant pour qu'on les remarquât. Le curé était parvenu à m'effrayer très fort. Il avait dit que celle qui n'était pas sincère aurait certainement une maladie le jour de la communion, ou tomberait morte en s'approchant de la sainte table. Puis qu'il fallait laisser fondre l'hostie, car si on la mordait, le sang nous sortirait de la bouche. Je ne pouvais prendre aucun goût à la religion. Comme conte de fées, je préférais Cendrillon et le Petit Poucet à ceux des saints et des saintes. J'avais néanmoins très peur. J'étais convaincue, comme malgré mes efforts, je me souciais peu de Dieu, qu'il m'aurait foudroyée, et m'approchant de l'autel, je le suppliais de me donner la foi et la sincérité. « Dieu, faites que je sois sincère quand je dis que je vous aime. Donnez-moi la croyance, je vous en supplie. » Il m'était resté une dent de lait, et derrière celle-ci avait poussé une autre dent, très pointue, avec laquelle je me mordais souvent cruellement la langue. Or, au moment de la communion, je claquais tellement des dents qu'en fermant la bouche, j'incrustais l'hostie dans ma dent pointue. Je me mis à chanceler et à zigzaguer comme ivre. Je m'attendais à voir le sang jaillir de ma bouche, éclabousser toutes les toilettes des autres et me gâter ma robe. Et quel scandale ! Je sentis littéralement le curé me chasser de l'église et vis tous les assistants me livrer passage comme à une pestiférée. Puis, si mon père nous quittait encore, on ne nous aiderait plus. On dirait « C'est une des leurs qui a mordu le bon Dieu, qu'il meure de faim !» J'eus toutes les peines du monde à suivre les autres et à regagner ma place. À la sacristie, on nous offrit des petits pains et du café. Une dame me prit dans ses bras en disant « Ah, la pauvre petite, elle va s'évanouir de faim !» Mais non, c'étaient les affres terribles par lesquelles je venais de passer. Et voilà que rien n'était arrivé. J'entends les puces marcher. Nous habitions une chambre unique dans une impasse gluante d'Amsterdam. Le soleil n'y pénétrait jamais. Et si, en hiver, le froid humide y était glacial, en été, la chaleur moite nous anéantissait. Il n'y avait qu'une alcôve à étage, ainsi que dans les barques de pêcheurs, mais cloisonnée. On y était comme dans un placard. Les parents dormaient dans le compartiment du bas, quelques-uns des enfants dans celui du haut, les autres à terre sur une paillasse. Dans un coin, un petit tonneau servant de chaise percée à la famille, dans d'autres, des langes d'enfants souillés, puis les détritus de tout un ménage miséreux. L'odeur de la pipe de mon père et les émanations de 10 pauvres rendaient l'atmosphère irrespirable. Par une nuit d'effroyable chaleur, j'étais étendue avec 3 de nos enfants dans la couchette du haut. Ils dormaient. Moi, je ne pouvais pas. Je me tournais et retournais en m'agitant. Nous étions couchés sur des sacs en grosse toile remplis de balles d'avoine qui, réduites en poudre et imbibées d'urine d'enfant, formaient une matière immonde et corrosive. La toile m'agaçait et me brûlait la peau. Les puces me harcelaient affreusement. J'étouffais. J'avais des bruissements d'oreilles qui me donnaient des hallucinations. J'appelai doucement ma mère et lui dis que je ne pouvais pas dormir parce que j'entendais les puces marcher. « Tu entends les puces marcher ? Oh, cette créature enfantine, et tu me réveilles pour cela ! Tu vas te taire, n'est-ce pas ? Je suis éreintée et veux dormir. » Je me tus, mais continuais à m'agiter. N'y tenant plus, je me laissai glisser à terre en m'aidant de la corde, m'habillai et sortis. Il pouvait être 4 heures du matin. Il n'y avait dans la rue que les éveilleurs. C'étaient des gens qui, pour 500 par semaine, éveillaient les ouvriers en faisant un vacarme qui troublait tout le voisinage.
En dehors d'eux, personne. Tous les magasins du New Wendig fermés. Le calme partout. Ah, que j'aimais cela! J'allais vers la haute digue qui avançait dans l'Y. La haute digue était ma promenade favorite. J'y faisais souvent l'école buissonnière avec ma petite sœur Nadge. Des deux côtés, l'Y clapotait contre les berges. On y trouvait des coquillages. Plus loin était une oasis d'arbres et d'herbes fleuries. Quand j'arrivais à la digue, l'air frais du large et la brise matinale me causèrent un tel soulagement qu'en jubilant je happai l'air. Je levai les bras en écartant les doigts pour mieux sentir jouer le vent sur ma peau irritée. Je restai ainsi longtemps à me griser, puis continuai ma promenade pour chercher des fleurs. Arrivée sous les arbres, je fus surprise de voir dans l'herbe les pissenlits et les pâquerettes fermées. Je n'avais jamais vu de fleurs la nuit et ne connaissais pas ce phénomène. Je fus si étonnée que je n'en cueillis aucune, comme prise de méfiance, et j'allai m'asseoir sur un banc. Il y avait à cet endroit un chantier où des hommes travaillaient. Un d'eux vint se mettre à côté de moi et dit « Ah, la grande fille qui est déjà dehors, et où vas-tu ?» Je lui répondis que, ne pouvant dormir, j'étais sortie, mais je n'eus garde de parler des puces. Puis je lui demandai pourquoi les pissenlits et les pâquerettes étaient fermés. « Ah, mon Dieu, quel ange ! Mais elles dorment, ma chérie, elles dorment !» Ce disant, il me souleva et me mit à cheval sur ses genoux. J'y étais à peine que je me sentis empoigné, flanqué dans l'herbe, et qu'un homme sauta à la gorge de l'individu, lui hurlant à la face « Ignoble sodomite, tu as été en prison pour avoir abusé des petites filles, et à peine sorti, voilà que tu recommences. Et toi, que fais-tu dehors à cette heure ? Décampe !» Je ne me le fis pas répéter. Je m'encourus et arrivai hors d'haleine chez nous, où j'entrai en coup de vent. Ma mère se réveilla en sursaut. « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? » s'écria-t-elle. J'avais eu grand-peur, mais ne me rendais pas compte du danger auquel je venais d'échapper. Aussi, au lieu de raconter ce qui m'était arrivé, je lui dis « Mère, sais-tu pourquoi les pissenlits et les pâquerettes sont fermés la nuit ? Eh bien, elles dorment, comme nous !»«
Quoi ? Que racontes-tu ? Tu es sortie ?»«
Oui, je suis allée à la haute digue pour me rafraîchir et chercher des fleurs, mais elles dorment !»«
Oh, cette créature enfantine !
Tantôt elle entend les puces marcher, maintenant les pissenlits dorment. Mais avec tout cela, tu me réveilles à chaque instant, et je suis éreintée, éreintée. Allons, va dans ton lit et dors. »
Je n'y songeais pas, et quand ma pauvre mère s'assoupit à nouveau, je sortis doucement dans l'impasse, où je me mis à jouer aux osselets sur la pierre de la citerne.